Pour ce nouveau podcast Capitaine, nous partons à la rencontre d'Aurélien Goutfard, fondateur d'Homeloop, une start-up créée en 2016 et pionnière en France de l'achat d'immobilier instantané. Aurélien est parti d'un constat. Les vendeurs de biens immobiliers sont soumis à beaucoup d'incertitudes et de délais dans le cadre de leurs transactions immobilières. Avec Homeloop, son objectif a été de rendre ces transactions plus simples et sécurisées pour les vendeurs. Homeloop achète ainsi directement les biens dans des délais très courts, sans conditions suspensives et à des prix clairs pour les revendre ensuite. En 2019, Homeloop accélère de façon importante son développement en levant 20 millions d'euros. Elle passe de moins d'une dizaine de salariés à près d'une soixantaine fin 2021. À cette période, son volume d'affaires s'élève à près de 200 acquisitions, représentant 80 millions d'euros de volume et environ 150 ventes pour un chiffre d'affaires de 65 millions d'euros. Mais plusieurs facteurs viennent perturber l'activité de l'entreprise et en juillet dernier, Aurélien décide de se placer sous la protection du tribunal et d'envisager la cession judiciaire d'Homeloop. Il revient aujourd'hui pour Mayday sur cette aventure entrepreneuriale de sa création, son développement, à l'étape particulière de la procédure collective jusqu'au plan de cession. Aurélien, bonjour.
Bonjour.
Tu as créé Homeloop en 2016. Est-ce que pour commencer, tu peux nous rappeler le métier d'Homeloop et peut-être revenir sur la genèse de cette création ?
Oui, donc Homeloop, effectivement, c'est un service que j'ai lancé à partir de 2016. Avec un objectif de rendre la transaction immobilière beaucoup plus simple, rapide et sécurisée. Puisque le constat que j'avais fait, c'est que pour vendre un appartement ou une maison, c'est un processus dans lequel il y a beaucoup d'incertitudes et beaucoup de longueur pour le propriétaire-vendeur, parce qu'un acheteur classique va avoir une condition suspensive de financement, des délais de rétractation, et donc voilà, beaucoup d'incertitudes pour un vendeur. Et Homeloop, tout simplement, va se porter directement à l'acquéreur, et ce qui permet au propriétaire-vendeur d'avoir aucune incertitude, puisqu'en quelques jours, il sait à qui il vend, à quel prix il vend, et quand est-ce qu'il vend.
En mars 2019, tu lèves 20 millions d'euros auprès d'investisseurs privés. Quels étaient tes objectifs et qu'as-tu pu réaliser ?
Donc effectivement, après cette première phase, on va dire 2016-2018, on va dire d'initialisation, d'amorçage du business model, on était très focus à Paris. À partir de 2019, on a effectivement levé 20 millions d'euros donc, auprès d'un investisseur privé, ce qui nous a permis d'ouvrir des nouveaux marchés. Donc de Paris et l'Île-de-France, on a ensuite ouvert à Lille, à Nantes et à Lyon. Donc voilà, ouverture de nouveaux marchés, développement des équipes aussi, puisque en l'espace de, voilà, à partir de 2019, on a pu commencer à recruter et étoffer nos équipes. Et on est passé donc de moins d'une dizaine en 2019 à près d'une soixantaine fin 2021. Et donc voilà, donc je dirais la levée de fonds qu'on a fait à partir de 2019 nous a vraiment permis de développer nos géographies, continuer à investir sur notre technologie et également développer nos équipes pour atteindre en 2021 un volume d'affaires d'à peu près un peu plus de 200 acquisitions, un peu plus de 80 millions d'acquisitions et 150 ventes pour un volume de 65 millions d'euros de chiffre d'affaires.
L'aventure est donc bien lancée à ce moment-là et en 2022, tu envisages une cession Inbonis. Quel était ton objectif ? T'adosser à un grand groupe, se marier à un fonds d'investissement, changer de stratégie ?
En fait, l'objectif, donc, effectivement, c'est un business model, peut-être pour vous préciser un petit peu plus le business model, permettre à un propriétaire-vendeur de vendre très rapidement, donc ça nécessite qu'on achète son bien. Et donc, effectivement, pour acheter son bien, il y a des besoins de financement qui sont assez importants, puisque on va dire que chaque bien nous coûtait à peu près 380 000 euros en prix d'achat. Je disais tout à l'heure, c'est 85 millions d'euros d'acquisition. Donc, on avait effectivement monté une structure qui nous permettait de financer ces acquisitions. Donc l'objectif effectivement c'est que à partir de 2019 avec mes partenaires financiers voilà, on s'était fixé un objectif de taille et un certain timing dans lequel il faudrait qu'on fasse appel à des capitaux externes pour passer à une prochaine étape de croissance et donc on a eu des discussions au courant 2021 mais effectivement le timing n'était pas le bon pour nous à ce moment-là et effectivement c'est début 2022 où on a réfléchi à nos options en termes de développement et de capital et où on s'est dit, voilà, regardons ce qu'il est possible de faire soit en levée de fonds, soit en rapprochement avec d'autres acteurs du secteur, sachant qu'effectivement, sur mon business model, je dirais que c'est un business model qui était naissant en 2016. On était les premiers à le faire en France. À partir de 2017-2018, il y a d'autres acteurs en Europe qui se sont développés, en Italie, en Espagne. Mais voilà, en France, c'était vraiment, on a été les pionniers. Et on a développé ce business model. Et donc là, l'idée était de passer à la deuxième étape. Mais malheureusement, effectivement, 2022, ça a été un tournant aussi sur le marché de l'immobilier qui ont fait que ces projets de rapprochement et ces projets de levée de fonds ont été un petit peu plus compliqués que ce qu'on anticipait.
2022, c'est un tournant sur le marché de l'immobilier parce que c'est la crise du Covid ou c'est l'augmentation d'intérêt, bien qu'elle a eu lieu un petit peu après peut-être ?
Alors je dirais, la crise du Covid a plutôt été un catalyseur d'activité pour nous, puisque donc à partir de mars 2020, alors effectivement on lève en 2019, un an plus tard on se retrouve dans une période un petit peu d'incertitude totale, puisqu'on on rentre dans le Covid en mars 2020, donc effectivement on est à ce stade très bien financé, avec un business plan ambitieux, mais on se retrouve avec un marché qui est complètement arrêté. Pendant deux mois, le marché s'arrête, donc évidemment on avait à l'époque, je crois, entre 15 et 20 millions d'euros de stock d'appartements. Donc évidemment la première question ça a été de dire qu'est-ce qui va se passer sur ce stock. Bon, finalement le confinement a été une période qui s'est évidemment, ça a eu un impact sur le chiffre d'affaires, mais je dirais en termes de prix, les prix n'ont pas dévissé tout de suite. En revanche, on a vu des changements de mentalité sur le marché immobilier. Les gens qui cherchaient plutôt à vivre à l'extérieur des grandes villes, on va dire les grandes métropoles qui étaient le cœur du réacteur du marché immobilier depuis 2015, en termes de dynamique de prix, de volume de transactions, les choses se sont inversées à ce moment-là. Et c'est-à-dire que, je dirais par exemple pour prendre un marché comme Paris, Paris à partir de mi-2020 est devenu un petit peu moins dynamique. On a vu que des délais de vente allaient s'allonger, que les prix dans certains quartiers commençaient à baisser. Ça a été d'abord assez flat, entre guillemets, enfin une progression moins rapide des prix. Et on va dire en 2021, à l'été 2021, c'est là où on a commencé à constater vraiment des baisses de prix dans certains quartiers à Paris, des baisses de prix marquées. Et c'est vrai que nous, c'est ce qui a commencé à jouer aussi sur finalement la valeur de notre stock, hein, puisqu'on est dans un métier où on détient du stock, un stock de biens immobiliers. Et effectivement, le gros enjeu, c'est que quand votre stock commence à se déprécier, il faut le vendre et vous commencez à le vendre avec des marges un petit peu moins importantes, voire parfois à perte. Et donc ce qui, dans notre modèle, peut commencer à inquiéter les investisseurs et à créer du risque pour le business model.
Donc la session que tu inities en 2021 et 2022 in bonis finalement ne se réalise pas. Et donc il y a un moment où tu réalises que tu dois te placer sous la protection du tribunal. C'est finalement le point de bascule. Quand et comment tu réalises que tu dois te placer sous cette protection et comment tu s'organises à ce moment-là la session judiciaire ?
Alors effectivement, en termes de calendrier, donc on est très très actif sur la session in bonis entre on va dire février et mai 2022. Et effectivement, il y a un moment où finalement les discussions avancées qu'on peut avoir avec certains partenaires malheureusement arrivent à un point où finalement on se rend compte qu'on n'arrivera pas à aligner les intérêts de l'ensemble des parties prenantes puisqu'on est encore une fois dans un secteur naissant. Sur des startups qui sont du coup en forte croissance, mais qui brûlent beaucoup d'argent, qui ont des gros problématiques de trésorerie. Hein, et c'est vrai que l'environnement dans lequel on évoluait, au-delà de l'immobilier, mais aussi sur le mode de financement des startups, était surtout un mode où l'objectif principal était la croissance. Donc c'était finalement la croissance à tout prix, la croissance à tout prix, la croissance à tout prix. Sauf que le paradigme a changé aussi au niveau des investisseurs fin 2021, début 2022, où finalement d'un paradigme où on veut de la croissance à tout prix, on a commencé à vouloir de la rentabilité. Et sauf qu'effectivement, dans un secteur immobilier ou même pour une startup en général, atteindre la rentabilité, c'est un changement de mindset important. Ça nécessite de couper des coûts, etc. Donc voilà, donc on avait quand même ce contexte qui a changé. Ce qui fait que dans nos discussions, les investisseurs des potentiels partenaires effectivement ont changé de mindset aussi, et donc devenaient beaucoup plus prudents sur la consommation de cash de l'entreprise 1. Et donc évidemment, la consommation de cash d'une entreprise combinée est aussi un facteur important. Et donc malheureusement, si on parle d'Homeloop en tant que tel, je dirais Homeloop début 2022 se retrouve dans une situation où on commence à gagner un peu moins d'argent sur les opérations qu'on revend, puisque les prix du marché sont un petit peu plus en train de baisser. Et nous, on est très exposés à Paris et à Lyon, donc les deux marchés qui dévissent un petit peu plus que le reste du marché. Donc on va dire un petit peu moins de marge sur chaque opération. en parallèle un plan de développement assez ambitieux avec beaucoup de recrutement voilà, qui avait été fait fin 2021, début 2022 pour continuer à accompagner cette croissance. Et donc, bah, quelque part, baisse des revenus, un peu moins de revenus, des charges. Au bout d'un moment, vous arrivez à un point où on va dire la consommation de cash devient très importante. Et donc, c'est vrai qu'il y a un peu ce point de bascule de se dire, en fait, à un moment, malheureusement, l'environnement ayant changé, les conditions de marché étant mauvaises, malheureusement, on va avoir du mal à lever. Après, on a été soutenu hein, jusqu'au bout par nos actionnaires, et je pense qu'effectivement on a eu aussi pas mal de temps où on s'est laissé la possibilité de trouver une solution. Donc je dirais avril, mai, juin 2022, on sait que la situation est tendue, on n'est pas certain d'avoir un deal, mais on a des options, et donc on continue, on investit, et donc en collaboration avec effectivement mon actionnaire majoritaire, on continue à investir pour financer finalement le cash burn, financer la consommation de trésorerie. Mais il y a un moment, effectivement, courant juin, où malheureusement, on réalise que les négociations n'aboutiront pas. Et là, effectivement, bah, moi, c'est ma responsabilité en tant que dirigeant de dire à un moment, je ne suis pas sûr de pouvoir payer les salaires à un moment. Malheureusement, la consommation de trésorerie est trop importante. Et donc, il faut se placer sous la protection du tribunal. Et donc c'est là où effectivement entouré avec mon conseil, un conseil juridique, donc Colin Marvaux, on fait un peu le bilan, on fait des plans de trésorerie, et puis on voit que malheureusement ça va pas passer, on passera pas l'été, et donc le 30 juin on fait une déclaration de cessation des paiements, et c'est comme ça que démarre la procédure.
Ok, donc effectivement le tribunal de commerce ouvre une procédure de redressement judiciaire en juillet. Hélène Charpentier, qui est associée chez Solv, est nommée administrateur judiciaire, et Sabine Rocher, qui est associée chez Fides, est nommée mandataire judiciaire. Donc tu es accompagnée dans le cadre de ce processus. J'imagine que c'est la première fois que tu rends compte les tribunaux de commerce dans ce contexte. Comment perçois-tu les choses à ce moment-là? Est-ce que tu te sens seule, entourée? Voilà, quel est ton ressenti à cette période?
Oui, effectivement, les tribunaux de commerce, moi, j'étais juste allé récupérer des dossiers pour déposer mon dossier pour créer la société, etc. Donc, j'avais plutôt une image positive et pleine d'enthousiasme. Et en fait, effectivement, donc là, ça a été une autre facette, on va dire, du tribunal, qui, en fait, avec un peu de recul, j'ai trouvé que vraiment le process était extrêmement bien orchestré. Et donc, effectivement, je pense à ce moment-là, c'est sûr que je dirais d'un point de vue entrepreneur, on crée pas on crée pas une boîte pour finalement faire une déclaration de cessation des paiements au bout d'un moment. Donc c'est vrai que à ce moment-là, mon responsable administratif et financier est mon meilleur ami, parce que on doit préparer un dossier de 30 pages où on doit déclarer toutes les dettes, etc. Donc là évidemment je passe des jours et des nuits avec mon responsable administratif et financier, donc Quentin, Adam, un mec super. on bosse vraiment main dans la main là-dessus avec Colin, donc Colin Marvaux, qui était l'avocat d'Omloop à ce moment-là. Et donc on très bien pris en main, ce qui nous a permis déjà de faire le dossier. Et ensuite, effectivement, à partir du 12 juillet, maître Hélène Charpentier rentre et nommée par le tribunal de commerce. Il y a quand même une étape importante, moi, que je trouve, d'un point de vue entrepreneur, c'est au tribunal de commerce. Je sais que dès le 12 juillet, ils nous ont octroyé cette possibilité de passer en redressement avec recherche d'un plan de cession. Et c'est vrai que moi, ma plus grande crainte à ce moment-là, et il y a eu vraiment 2-3 minutes entre le moment où on a présenté les choses au tribunal de commerce et le moment où ils nous ont donc fait re-rentrer dans la salle, puisqu'en fait, vous présentez vos dossiers, vous expliquez pourquoi vous en êtes là. Et les juges vous demandent un moment de sortir. Et là, c'est les 3 minutes où je pense que j'ai eu le plus peur de tout de ces 6 dernières années. C'était vraiment, ok, ça se trouve, je vais partir en liquidation immédiate. Et ça, c'était vraiment pour moi la pire crainte, parce que ça aurait voulu dire que tout ce que j'avais fait ces 6 dernières années partait en fumée. Tous les salariés de Omloop auraient été licenciés du jour au lendemain, qu'on ne pouvait plus accompagner nos clients. Enfin voilà, donc la liquidation immédiate pour moi c'était vraiment le truc que je ne voulais pas. Il y a eu ces 3 minutes où j'étais vraiment hyper stressé. Et finalement on est re-rentré dans la salle et je me souviens très bien des juges qui prononcent finalement leur décision et qui nous laissent donc la possibilité d'avoir un redressement de 6 mois avec recherche d'un plan de cession. et la nomination donc de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire. Et donc là, ça a été voilà quelque part un soulagement, hein, une forme de soulagement de me dire ok, finalement, je vais rentrer dans un process qui va me permettre de trouver une solution pour Homeloop.
Je vais être accompagné quoi.
Voilà, je vais être accompagné. Et donc voilà, dès le 18 juillet, on a fait une réunion chez Maître Charpentier avec ses collaboratrices. Et voilà, on s'est lancé dans le plan de session. Et le challenge pour Homeloop, c'est que la trésorerie était très limitée. Donc on a fait ouverture de la procédure de redressement le 12 juillet. On a lancé le plan de session le 20 juillet. Et on a demandé les offres début août, donc le 9 août, pour une audience le 1er septembre.
C'est vrai qu'on a, Maïdé, on a reçu l'appel d'offres pendant l'été et on s'est assez vite dit « Aïe, c'est quand même pas la meilleure période pour trouver un repreneur ». T'as quand même plusieurs candidats sérieux qui arrivent malgré la contrainte de l'été et le peu de temps. Juste avant peut-être de revenir sur l'appel d'offres, parce que c'est un peu préliminaire, comment tu as géré avec tes salariés l'annonce de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ?
Ouais, alors ça a été. Il y avait une sorte de valeur, enfin, il y a une valeur assez forte chez Homeloop qui était la transparence. Donc, c'est vrai qu'on a toujours été très transparent, dans les bons moments, comme dans les mauvais moments. En fait, on leur a annoncé dès le dépôt de la cessation des paiements, dès la déclaration de cessation des paiements, en fait. Je crois que c'était un jeudi. Le jeudi matin, on a réuni toute l'équipe, enfin, toute la boîte. Donc, ceux qui étaient à Paris et ceux qui étaient en province, en visio. Et donc le matin, on leur a annoncé que les options auxquelles on réfléchissait pour la boîte n'aboutiraient pas et qu'on n'avait pas d'autre choix que de faire une déclaration de cessation des paiements et de passer en redressement. Donc on leur a annoncé ça le jeudi matin et l'après-midi, on a déposé. Donc voilà, donc il y a eu cette communication avec les salariés qui a été très claire. Voilà, on est dans une boîte où effectivement, il y avait toujours beaucoup de communication. On était une petite cinquantaine, donc très, très, très grande proximité avec la boîte. Mais c'est vrai que ça a été un choc très important pour eux. Je pense que pour la plupart d'entre eux, évidemment, ce n'était pas l'aventure qu'ils avaient rejoint, ce n'était pas la dynamique dans laquelle ils étaient. Et donc, ça a été une grande claque. Et je pense que. Mais ça a été une grande claque, mais ils ne l'ont pas laissé paraître. Et donc, quelque part, ils ont continué à bosser, effectivement. Et donc, pour ça, je pense qu'ils ont été aussi remarquables dans cette. Dans cette aventure, parce qu'effectivement, c'est un gros choc qui leur a été imposé à ce moment-là. Mais donc voilà, beaucoup de communication, et y compris pendant le plan de session, on a beaucoup communiqué sur les étapes clés, ce qui allait se passer, quels allaient être aussi les enjeux pour eux. Voilà, et donc on les a rassurés sur le fait que l'activité était maintenue, que le travail continuait, qu'il fallait continuer à servir nos clients, continuer à travailler sur leurs tâches quotidiennes, puisque l'activité n'était pas interrompue. Et ça, c'était vraiment important de leur rappeler que l'activité se poursuivait et que du coup, on comptait sur eux et que par ailleurs, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y avait des systèmes et des mécanismes qui permettaient de régler leur rémunération. Et donc voilà, on a vraiment essayé de jouer carte sur table sur les difficultés rencontrées, mais le fait qu'ils seraient toujours sécurisés dans leur job et dans leur rémunération.
À ce moment-là, est-ce que tes clients ont connaissance de l'ouverture de la procédure et si oui, est-ce que tu arrives à maintenir la confiance de tes clients?
Ce qui est certain, c'est qu'à ce moment-là, on ne prenait plus d'engagement d'achat immédiat. Donc c'est simple, c'est clair. On a dû changer notre modèle aussi. Donc c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus proposer à nos clients l'offre d'achat immédiat. Mais donc on les a quelque part, on essayait de leur proposer un service alternatif qui était la transaction immobilière un peu plus classique. Donc intervenir en tant qu'agent immobilier quelque part, qui était une petite fraction de notre business avant l'entrée en procédure, mais qui devenait du coup la seule quasiment option qu'on pouvait proposer. Donc on a été très transparent sur le fait que aujourd'hui, Homeloop ne pouvait plus se porter acquéreur, qu'on pouvait leur proposer de signer des mandats de vente. Et pour ceux qui étaient en mandat de vente, on les a rassurés sur le fait que effectivement la société était quelque part dans une situation de redressement, mais qu'elle évaluait ses options et que pour eux ça ne changeait rien. On pouvait continuer à les servir, leurs interlocuteurs ne changeaient pas, c'était toujours les mêmes interlocuteurs, et donc on a réussi à conclure des ventes dans le cadre, même pendant la période de d'observation. Et donc voilà, même si c'est vrai que pour beaucoup de clients, il y a eu un peu de chamboulement, puisqu'ils se posaient des questions, on va vraiment m'acheter mon bien, est-ce que je vais avoir quelqu'un qui va s'occuper de mon dossier. Donc voilà, on a perdu quelques clients, mais globalement, on a réussi quand même à continuer à opérer sur la petite période de 2 mois de la durée d'observation.
Ouais, c'est évidemment un élément clé, j'imagine, pour une reprise après. Donc au mois d'août, tes salariés sont informés, les clients, bon bah voilà, vous maintenez l'activité comme vous pouvez. Tu as cette date limite de dépôt des offres et donc tu as plusieurs offres intéressantes qui sont déposées, sérieuses. Comment toi, à ce moment-là, tu gères la relation avec les potentiels repreneurs? Est-ce que tu les rencontres? Et surtout, comment tu ressens les choses, toi, à ce moment-là?
Bah alors oui, je pense que dans le cadre du plan de cession, ça a été vraiment un travail de concert avec donc les équipes de Solve et de Maître Charpentier où on a ouvert donc cet appel d'offres. Évidemment, les acquéreurs potentiels, les gens qui devaient faire des offres avaient toujours évidemment besoin de questions sur le business. Donc on a fait quelque part un peu comme un processus de vente classique. Vous avez des interviews avec, en l'occurrence, des acquéreurs potentiels. Et moi, je me suis rendu hyper disponible pour répondre à toutes leurs questions et leur permettre vraiment de préparer un business plan qui allait leur permettre, dans un espace de 3 semaines, de proposer, de faire une offre engageante, quoi. Donc ça a été, travail quotidien de parler avec les repreneurs potentiels. Je crois qu'il y a eu un peu plus de 25 personnes intéressées. Et il y a eu, je pense, entre un petit peu moins d'une dizaine de personnes à qui il y a eu des échanges. Et in fine, 3 offres, bon, 2 sérieuses, concrètes, puis une offre qui était un peu plus un actif isolé. Donc ça a été mais très bien géré, puisque, encore une fois, un timing très strict, une data room très, très clean. Donc cette phase-là a été plutôt bien orchestrée.
À ce moment-là, tu continues de tenir informé tes salariés des échanges avec les repreneurs? Ou pas, et comment tu fais en plein mois d'août pour continuer de leur donner une lueur d'espoir sur cette transition?
Alors effectivement, le challenge du timing, puisque donc on est au mois d'août, activité un peu ralentie, tout le monde un petit peu en vacances à droite à gauche. Donc dans le cadre du plan de cession, on a maintenu des échanges réguliers avec les salariés, et puis on a fait une chose en particulier que moi je trouve hyper intéressante et qui a un petit peu dérogé à la règle de ce qu'on peut voir, c'est qu'à un moment, sachant que dans notre business d'immobilier, la valeur de l'équipe est hyper importante. Je dirais, nous, on est à la fois dans l'immobilier et dans la techno, et dans la tech, puisqu'on a développé des outils, etc. Et donc, pour les repreneurs, évidemment, ce qui avait beaucoup de valeur, c'est l'équipe, c'est en grande partie l'équipe. Et donc, on a organisé en plein mois d'août, entre le 9 qui était l'offre initiale et le 20, je sais plus, fin août où il y avait l'offre définitive. Donc, on a organisé une visio où les repreneurs, chacun des 2 repreneurs qui avaient fait des offres de reprise, ont pu présenter leur projet à l'équipe. Et ça a été vraiment un moment hyper important. Et je pense qu'on a préservé énormément de valeur et qu'on a permis à beaucoup de salariés de se projeter dans la suite grâce à ça. Puisqu'en effet, je pense que si on n'avait pas fait ça, beaucoup de gens auraient posé leur démission courant août parce qu'à la rentrée, ils auraient eu d'autres opportunités. Et donc ça, finalement, je pense qu'on a vraiment, grâce à cette visio, Maître Charpentier a accepté de faire une visio pendant l'été. Et donc, on a préservé pas mal de valeur avec ça. Et je sais qu'il y a des salariés qui m'ont dit, effectivement, s'il n'y avait pas eu cette visio, je pense qu'on n'aurait pas... je pense que j'aurais peut-être posé ma démission, quoi.
Au final, c'est le groupe Bénédic qui est repreneur d'Homeloop. Est-ce que toi, tu faisais partie du projet de reprise ou pas?
Alors, moi, j'ai beaucoup réfléchi aussi à titre personnel pendant cette phase d'appel d'offres, savoir où est-ce que j'en étais, moi, par rapport à l'aventure Homeloop. Est-ce que j'avais envie d'aller demander une dérogation pour proposer un plan de reprise, etc. moi-même? Et en fait, effectivement, assez vite, je me suis dit que non, la période que j'avais beaucoup donnée à Homeloop sur ces 6 dernières années, que peut-être, effectivement, le moment était venu aussi de prendre un petit peu de recul. En revanche, j'ai joué le jeu à fond sur les 2 projets de reprise, et effectivement, et donc très content que ce soit effectivement le groupe Bénédic qui ait pu reprendre l'activité d'Homeloop, puisque le groupe Bénédic, c'est un groupe très solide. Ils ont plus de 50 ans d'histoire, ils sont historiquement dans l'Est de la France, ils font tous les métiers de l'immobilier, de la transaction, du syndic, de la gestion. Et surtout, ils avaient lancé également un business comparable à ce que fait Homeloop. Donc quelque part, il y avait déjà une expérience dans notre métier, l'achat instantané, plus une expérience historique dans l'immobilier. Donc ça me semblait être un projet très sérieux pour Homeloop et pour écrire la suite d'Homeloop. Et ça a toujours été très clair avec le groupe Bénédic, que effectivement, j'étais disponible et j'étais disposé à effectivement faire de l'accompagnement, les aider à prendre en main l'activité, mais que je ne serais pas le CEO d'Homeloop. Et si vous voulez, c'était clair et net pour moi que de toute façon, je pense, mon mon heure, on va dire, en tant que dirigeant, manager, etc. de cette société, avait sonné et que j'étais très content de passer la main.
Bon, déjà, bravo, parce que c'est une belle histoire, finalement. Enfin, ça se termine bien. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a quand même un petit peu de recul. Et si tu regardes un petit peu dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu ressors aujourd'hui de cette expérience ?
Alors, de l'expérience redressement.
De l'expérience de ton bébé, entre guillemets, qui a évolué, peut-être pas de la manière dont tu t'y attendais quand tu l'as créé.
Bah, y a énormément d'enseignements. Hein. C'est certain que je pense que, avec du recul, je pense qu'il y a ce changement de paradigme aussi, où on passe d'une phase d'hypercroissance à une phase de rentabilité. À titre personnel, j'aurais pu l'anticiper davantage. Donc c'est sûr que j'aurais pu mieux anticiper certaines choses. Après, quelque part, je pense aussi avoir essayé de chercher toujours toutes les options pour maximiser l'intérêt de la société, trouver une option de rapprochement, etc. Et même dans le cadre du processus de cession en plan de cession, voilà, j'ai tout donné pour trouver la meilleure option pour qu'il y ait un maximum de salariés qui soient repris et pour que l'activité, la marque, la société puisse perdurer. Et donc, quelque part, finalement, même si évidemment j'aurais préféré une issue différente d'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue actionnarial, je pense que malgré tout, ce qu'on a créé et ce qui a été constitué ces dernières années avec l'aide de mes actionnaires, avec l'aide de tous les gens qui ont cru dans le projet, les salariés, les clients, ça existe encore. Et donc, quelque part, la plus grande satisfaction que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on ait réussi à faire ce plan de cession, puisque, quelque part, Omloop continue à exister et va pouvoir se développer. Ça, je dirais, d'un point de vue entrepreneurial, c'est une forme de satisfaction.
Si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écouterait, ce serait lequel ?
C'est, je pense, aussi un point hyper important, c'est qu'effectivement, même si on peut se retrouver dans une situation où on doit un jour déposer, faire une déclaration de cessation des paiements, je pense qu'un point important, c'est que c'est pas la fin du monde. Je pense que c'est hyper important de se dire que parfois, il y a des projets qui réussissent, c'est super, et puis il y a des projets qui ont un peu plus de mal à se développer. Malheureusement, parfois, le contexte économique n'aide pas, il peut y avoir des retournements, des problèmes dans sa chaîne d'approvisionnement, des problèmes dans sa chaîne de valeur, et donc qui font que parfois, on est confronté à une difficulté de trésorerie, et quelque part, il faut l'affronter, et je dirais, c'est pas un échec, on va dire, personnel et une remise en cause de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous avez construit, etc. C'est que ça arrive. Je dirais, ça fait partie du parcours de l'entrepreneur, et je pense qu'il faut surtout pas être abattu, et surtout, je pense qu'il faut se dire aussi que le système est super bien fait, le redressement, le plan de cession, il y a des vrais accompagnements, il y a des vraies solutions pour protéger les intérêts de vos salariés, pour protéger les intérêts de vos créanciers, etc. Et quelque part, je trouve que le système fonctionne bien et accompagne et aide plutôt les entrepreneurs. Donc voilà, je pense que ça sert à rien de se foutre dans une situation complètement irrécupérable et autant en parler avec des avocats, avec des administrateurs, avec des gens qui vont pouvoir vous aider dans une situation potentiellement compliquée. Merci à vous.
Merci beaucoup Aurélien, c'était un plaisir d'échanger avec toi et de découvrir un peu plus ton aventure.